chaleur printanière va devenir la nouvelle norme avec le réchauffement climatique. Serge Zaka est docteur en agroclimatologie.
On a des printemps et des hivers de plus en plus doux. C'est-à-dire que nos végétaux jusqu'en...
Radio G, 101.5 FM.
Impromptu littéraire. Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début des 20e siècle.
Poétesse et universitaire,
dont nous amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Le bourreau et victime en mêlent leur récit »
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Assise près de l'incubateur ». Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Psychanalyste, Simon a fait profession d'écouter les autres, au risque de faire taire sa propre histoire. À la faveur d'une brèche dans le quotidien, un bol cassé, vient le temps du rendez-vous avec lui-même. Pour Simon, le voyage intérieur passe par un vrai départ, et d'un rivage à l'autre, par le lointain Japon, ses rites, son art de réparer, ses floraisons. Cette quête initiatique contient aussi tout un roman d'apprentissage bâti sur le feu et la violence. Simon est hanté par un cas qu'il n'a pas su réparer. L'âme éperdue qui a offert ce bol cassé, un séisme provoqué par un geste banal qui engage quelque chose de profondément à l'œuvre et qui remonte. Simon quitte l'île des émotions intenses de sa jeunesse et s'éloigne du trio tragiquement éclaté qui hante son ciel. Sur les îles subtropicales de Maeyama, avec les très sages Madame et Monsieur Ito, naît une nouvelle amitié à trois. La confiance au-delà du langage fera que pour Simon, la rencontre avec soi passe par la rencontre avec l'autre. Écoutez des fragments de ce livre qui donnent l'ambiance et la musique de cette œuvre poétique à l'écriture sublime, fluide, agréable, très visuelle et envoûtante. Ouvrons le livre au hasard, ce livre, une ode à la nage, à l'eau, au silence. La patience des traces, roman paru chez Actes Sud en janvier 2022. Jeanne Benhameur, romancière et poète, est l'auteur de nombreux ouvrages, notamment Profane en 2013, Grand Prix du roman RTL, Lire, Otage intime 2016, Prix des libraires en scène, et plus récemment, Ceux qui partent, Prix des lecteurs de Corse 2020. Elle est l'auteur de textes poétiques, comme L'exil n'a pas d'ombre, Prix de poésie Vénus Curie Gatta en 2019, livre que nous avons eu le plaisir de vous lire dans cette émission. Elle écrit également pour la jeunesse. Simon est assis dans sa cuisine, seul. Il vient de ramasser les deux parties d'un vieux bol bleu, une dans chaque main. Le bol est tombé sans qu'il s'en rende compte. Il lui a échappé des mains. Maintenant, il regarde par la fenêtre. Les deux moitiés ne pèsent pas le même poids. On peut jouer toute une vie sur quelque chose de brisé. Il en sait quelque chose. Il abaisse son regard sur la faïence bleue. Le bol a gardé en empreinte des traces plus sombres malgré les lavages. Depuis si longtemps, c'est son bol du matin, celui du premier café, quand tout dort encore dans la ville et que lui, déjà, veille. Le bol des pensées qui se cherchent, pas encore arrimé à la journée. La pensée qui flotte entre sommeil et éveil. La concentration dont il aura besoin qui prend naissance là, dans cet entre-deux. Aucun nom encore dans la tête, aucun cas précis. La couleur du ciel qui apparaît peu à peu, la sensation du froid ou du chaud sous la plante de ses pieds. C'est toujours le même bol entre ses mains, quelle que soit la saison. Et lui qui songe, sa liberté du matin. Après, les heures s'enchaînent et les rendez-vous. Drôle de mot quand on y pense. Qui se rend et à quoi? Sur ce divan, chacun prend le chemin qu'il peut. Et lui, dans son fauteuil, yeux mi-clos ou scrutateur soudain, il écoute. Il va partir. Quitter la ville qu'il aime depuis l'enfance. Son doigt effleure le bord râpeux à l'endroit où la céramique a cédé, comme on caresse le sillon où le collier de l'animal domestique a comprimé le pelage. Il est grand temps. Il pense aux pieds bandés des Chinoises. C'est douloureux quand on laisse le sang circuler à nouveau, paraît-il. Pour la délivrance, il faut toujours payer le prix. Il remet les deux faces l'une contre l'autre. Voilà, c'est parfait. Le bol réapparaît. En apparence, rien ne manque. Mais lui, il connaît la cassure. Il suit des yeux la ligne qui prive désormais l'objet de son utilité. Ce n'est plus un bol. Rien que de la faïence brisée. Retourné à la matière. Même les objets peuvent perdre leur sens. Simon pose les deux morceaux sur la table de la cuisine, puis il fait le geste de les tenir encore entre ses mains, dans le vide. Le bout de ses doigts se rejoint autour d'une forme qui n'existe plus. Il pense aux mains qui se joignent pour prier. Il n'a jamais pu. Il revoit alors une fleur délicate de bougainvillier, rose tendre, balayée par le vent sur une terrasse. C'était il y a des années, et le souvenir est pourtant si vif. Il l'avait suivi du regard longtemps avant de la ramasser. Elle doit toujours être dans un de ses livres. Mais la couleur... Déjà, sur la terrasse, sans le bleu cru du ciel en arrière-plan, elle perdait son éclat. Il a tout mis en place pour partir. Depuis des mois, il ne prend plus de nouveaux patients. Pour suivre la route avec quelques-uns, jusqu'au terme, les rendez-vous bloqués sur 3 jours, pour 2 ou 3 autres, indiqués des confrères. Maintenant, ça touche à sa fin. Il est libre, presque. C'est dans le presque que tout se joue. Toujours. Il suffit parfois d'un bol qui échappe. Ça va s'accélérer. Il regarde ses mains. Les mots, ça suffit. Il a tenu assez longtemps la place de celui qui se tait pour permettre aux autres la parole. Lui, il a toujours cru au silence. Il laisse ses doigts effleurer chacune des deux parties du bol. 2 choses singulières maintenant, à explorer séparément, Adam et Ève. Avant la chute, il les a toujours imaginés aimants, silencieux, tout à la joie, sans l'alphabet du cornu. C'est si rare dans une vie. Mais on ne sait pas s'en contenter, n'est-ce pas ? Non, il faut y mettre des mots. Et le paradis des corps silencieux et nus, c'est fini. La pomme, c'est l'alphabet. Et on l'a tous mangé. Simon sent remonter une vieille rage. Le premier cri de celui qui vient au monde, c'est la première trahison du silence. Et c'est parti. C'est de ça dont on vient se guérir sur son divan. Et lui, qui le guérira ? S'il prend à nouveau chacune des deux parties du bol, qu'il les laisse tomber, volontairement cette fois, des fragments nouveaux, des formes nouvelles apparaîtront. La chute, c'est fertile. La rupture crée, il en sait quelque chose, oui. Il est payé pour ça, et il en est fatigué. Il a besoin de commencer un autre chemin, le langage comme mal et comme remède, il a arpenté. Pourtant, il croit toujours en la parole. Il aimerait bien ne pas être comme Bartleby. S'il était peintre ou musicien, ce serait différent. Mais non, lui, c'est le langage. Il hausse les épaules. A-t-il choisi ? Peu à peu, il a appris à écouter chacun de ses patients comme on écoute un chant. Un long poème balbutiant, en lui seul pour en saisir le rythme, avec pour unique outil le silence. Peu à peu, il a appris à entendre quand quelque chose cherchait à venir, d'une séance à l'autre. Il a aidé au miracle laborieux du lien qui s'élabore. Sentir qu'un patient commence à se dépouiller des faux-semblants, ça c'est quelque chose. On entre dans sa propre histoire, pieds nus, toujours. Lui, il a été là pour ça, humblement. Les pierres sur le chemin, il n'avait pas le pouvoir de les écarter. Juste d'être là et d'accompagner la joie, l'inquiétude, la souffrance, tout le panel. Garder courage. Parfois guidé d'un mot, rarement d'une phrase. Il a assisté, encore plus rarement, à quelques épiphanies. Quand la parole devient vraiment un acte, le verbe, très rare. Et toujours de séance en séance, sa présence tenue garante que tout cela a bien lieu. Il masse ses reins d'un geste familier, la douleur du dos pour lui rappeler qu'il est resté assis bien trop d'années, immobile. Il n'aurait jamais pu faire autre chose.
Enfant, avec Mathieu, il faisait des feux sur la plage dans l'île, juste en face de la ville. Des feux pour rien. Pas de poisson à faire cuire, ce n'étaient pas des Robinsons, juste deux garçons un peu sauvages qui aimaient regarder les flammes. Simon n'a pas renoncé à la beauté, mais la sauvagerie. Il reste toujours aussi longtemps assis contre les rochers à contempler les vagues. Il ne fait plus de feu. Il joue aux échecs dans un café sur le port devant un whisky. C'est un rituel. Il en faut bien quelques-uns. Avec le temps, il est devenu bon joueur. Plus jeune, il voulait trop gagner. Il emportera son jeu d'échecs. Pourquoi a-t-il gardé la trace de tous ces rendez-vous ? Tant de voix venues jusqu'à lui. Ah, les voix. Sa mère chantait. Quand elle était seule ou se croyait seule. Lui, il était son unique enfant et il l'écoutait. Tapi dans un coin, il rêvait toujours à se faire oublier. Alors il pouvait l'écouter. La récompense de son invisibilité. Sa mère avait été veuve très tôt. C'était une femme qui n'attirait pas les regards. Une beauté discrète. Mais quand elle chantait, quelque chose se passait. Une vibration dans son corps à elle qui arrivait jusqu'à lui. Il fermait les yeux. La voix de sa mère l'enveloppait et l'emmenait. Où retournait-il alors ? Dans quelle grotte ? Dans quelle opacité perdue ? Son goût pour le chant baroque, il le lui doit. Et la nostalgie ? Il sait si bien la reconnaître chez chacun de ses patients. On y arrive toujours au paradis perdu. Combien de pas faut-il et quel épuisement pour enfin comprendre ? Ses épiphanies à lui, c'était quand il retrouve à l'intérieur de son propre corps d'orme la vibration d'un autre corps. Et lui alors vibrant à l'unisson, inexplicable. C'est toujours par la voix d'une femme que cela a lieu. Il aurait épousé Louise rien que pour ça, parce qu'elle avait, quand elle entrait dans la jouissance, cette vibration merveilleuse d'une douceur infinie. Pour lui, une femme, c'était ça. Et elle l'emmenait dans son champ. Il était transporté dans les confins ignorés, dans une brume, un ailleurs, sans sortir de la chambre. Et puis tout ça a été foulé aux pieds, un beau gâchis. Plus rien de possible entre eux, perdu le miracle du bleu. Plus de nuit enchantée, il ne pouvait pas pardonner. Peu à peu, avec les années, il a repensé à Louise plus doucement. Le souvenir enjambait la douleur. Remonté en amont, il retrouvait Louise l'intrépide, l'amie d'enfance, celle qui les accompagnait, Mathieu et lui, celle qui nageait, courait avec eux. La petite fille têtue, l'adolescente douce et effrontée. Il a gommé la femme, la découverte de son champ. Ça valait mieux. Parce que lui, tout lui glisse entre les doigts. Il ne sait rien retenir. Même pas un vieux bol bleu. Il pose la nuque contre le dossier du fauteuil, regarde le plafond. Il a gardé toutes ces années une aquarelle et un bol. L'aquarelle, c'était Louise. Le bol, Mathieu. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Des années que cela n'a pas harponné comme ça, il suffit d'un bol qui vous glisse des mains.
Le voilà sur l'île où il va séjourner. De savoir la mer tout autour de lui, il se sent mieux. Maintenant, il est arrivé. La voiture prévue est bien là à l'attendre. Il peut enfin relâcher sa vigilance, se laisser aller. Le conducteur ne parle que quelques mots d'anglais, mais c'est suffisant. Il sait où il va, travaille dans la maison d'hôte où il se rend. Simon comprend qu'il s'appelle Nori et se laisse glisser dans le soulagement d'être pris en charge. Le trajet ne lui semble pas long. Et le voilà qui fait du regard le tour de ce qui va être son domaine. Avant même de lui faire rencontrer son hôtesse, Nori la conduit à sa chambre. C'est visiblement l'homme à tout faire de la maison. C'est bien de pouvoir se poser un moment avant de rencontrer qui que ce soit, de devoir parler, sentir le lieu seul. Une grande pièce ouverte sur un jardin, ça lui plaît. Suffisamment confortable pour cette sorte de retraite qui va être la sienne. Rien de trop, comme il l'avait souhaité, des tons clairs, doux. Ça ira, se répète-t-il, ça ira. Nori a tenu à s'occuper de sa valise, ça l'a gêné, mais la façon souple de cet homme ne manque pas de fermeté. Simon pense même autorité, il s'est laissé faire, après tout. Nori lui montre tout ce qui lui sera utile pour son séjour. Il y a plusieurs habitations comme la sienne. Il en a compté deux autres. Sont-elles toutes trois occupées, chacun dans son chez-soi? Il regarde la vue qu'il a du jardin. Et là, juste en face, des fleurs roses vives d'un bougainvillier. Décidément. Hervé lui avait bien dit, « Tu verras, ce sont les Antilles du Japon. » Simon oblige son regard à se détacher du bougainvillier, à explorer de loin le jardin. Des plantes qu'il ne connaît pas, une végétation luxuriante. En face, sur sa gauche, il repère ce qui semble être un autre bâtiment, d'un seul tenant. Une silhouette passe devant les fenêtres. On dirait une sorte d'atelier. Il s'assoit à la table devant un bouquet chaleureux au ton orangé. Le vase est beau, élancé en céramique brune. Il est touché de l'attention. Il pose un instant la tête sur ses bras repliés, le regard tourné vers les fleurs. Que fait-il ici? La chaleur humide crée une torpeur dont il a du mal à sortir. Il n'a guère le temps de s'attarder. Déjà quelques petits coups à la porte. Nori est là à nouveau. Son hôtesse, Madame Ito Akiko, l'attend. Cette fois, Nori est souriant. Pendant tout le voyage, il a gardé un sérieux, proche de la froideur. C'est l'évocation de la maîtresse des lieux qui le réjouit. Peu importe, Simon se rend compte qu'il a bien besoin de Marc de sympathie. Alors il sourit en retour. Première surprise, Madame Ito Akiko est plus âgée qu'il ne pensait. Elle n'est pas non plus vêtue de façon traditionnelle comme il l'avait imaginée. Et même s'il s'en défend, il est un peu déçu. Madame Ito tient une maison d'hôte bien particulière. Elle est collectionneuse de tissus anciens et sa collection est assez célèbre. Elle a trouvé ses tissus dans les coins les plus reculés. Aujourd'hui, elle a créé cette maison où les gens qu'elle reçoit ont accès à sa collection et à des visites chez des artisans triés sur le volet. Elle organise tout. Simon n'a pas hésité longtemps quand son ami Hervé lui a parlé de cet endroit. « Je crois que je t'ai trouvé un lieu à part, Simon, vraiment particulier. Tu peux me faire confiance. » Et Simon lui avait fait confiance. Il lui avait bien spécifié qu'il souhaitait séjourner dans un endroit loin des sites touristiques. Il voulait à la fois s'intéresser à la culture traditionnelle et nager, marcher, seul. Il ne savait pas combien de temps il resterait, voulait se sentir libre.
Elle a servi le thé et son regard s'est posé sur lui, d'une façon si légère qu'il aurait pu ne pas même s'en apercevoir. Mais il a trop l'habitude lui-même d'observer pour que ce regard lui échappe. Je suis honoré que vous ayez choisi ma maison. Il sourit. Ici, les choses sont simples. Si vous souhaitez prendre vos repas avec nous, c'est possible. Sinon, vous trouverez des auberges agréables, pas bien loin. Nous pouvons aussi vous porter un plateau dans votre appartement si vous le souhaitez. Simon se détend. La liberté sera respectée. De retour dans sa chambre, il s'allonge sur le lit bas et garde la tasse auprès de lui. Il la contemple en la tenant avec précaution. Le rouge sombre est chaud et comme éclairé de l'intérieur. Cette lumière retenue, discrète, comme filtrant à peine, c'est ça qui la rend si belle. Il l'observe de plus près. L'impression de lumière vient d'un trait d'or qui sinue sur la céramique. Un trait sans dessin particulier qui s'interrompt et reprend de façon apparemment aléatoire. Il suit le trait du bout de l'index tout autour de la tasse. La couleur rouge n'est pas égale partout. Simon voit des nuages ou des vagues, un mouvement contenu. Il se laisse emporter par une rêverie de paysage. C'est très beau. Quand il sent que sa main commence à lâcher prise, il pose avec précaution la tasse sur la table de chevet et ferme les yeux. La nuit est-elle venue ? Le sommeil de Simon est traversé de rêves, d'images, mais il ne se rappellera rien quand il s'éveillera quelques heures plus tard. La nuit est toujours là. Y a-t-il eu des pas dans le couloir ? Des portes qui glissent et se referment ? Il se lève, l'esprit encore embrumé. Il a à nouveau besoin de boire de l'eau fraîche. La chaleur est lourde à supporter. Il se déshabille et se glisse dans le lit. Il n'a même pas ouvert la valise. Il caresse les tasses rouges de la main très doucement. La vie est plus inventive que ce qu'on imagine, pour peu qu'on veuille bien les laisser faire.
Il va nager. Le corps dans l'eau pousse la peur devant lui, toujours plus loin. Il retrouve le sentiment de force que donne la lente avancée à chaque brasse. Ce jour-là, il va plus loin et il voit une raie manta. Hervé lui avait dit qu'il y en avait. Des mantas Alfredi, moins impressionnantes que celles qui ont jusqu'à 6 mètres d'envergure. L'Alfredi, du nom du prince Alfred, il l'a appris par son ami, n'a que 2,50 mètres à déployer. Mais c'est déjà beaucoup. L'avoir là devant lui l'impressionne. Soudain, la raie le surprend. Elle vient de sauter hors de l'eau. Une sorte de grand saut périlleux arrière. Il voit la face blanche ventrale et les petites traces de couleur qui la marquent. Il reste un moment indécis, n'ose pas aller plus avant. Elle est impressionnante et belle. Il sait que ce sont des animaux sensibles et inoffensifs. Le voit-elle, le sent-elle, il ne peut se défendre d'une peur archaïque devant le majestueux déploiement des nageoires. Est-ce qu'il la dérange ? Il s'apprivoise à sa présence. Au bout d'un moment, il pense. Nous nageons dans la même eau et c'est rassurant. Il ne sait pas pourquoi. Ils sont deux êtres vivants, deux vies si différentes, et ils nagent dans la même eau, c'est tout. Il s'approche un peu. Une impression nouvelle l'envahit. Il fait partie, comme la raie manta, comme les tortues, comme tous les poissons qu'il ne voit pas, comme le corail qui entoure l'île. Il fait partie, lui aussi, parce qu'il est vivant, c'est tout. Il laisse entre lui et la raie une distance respectueuse de leurs sensibilités respectives. Elle ne s'enfuit pas, ne s'approche pas. Ils sont près des récifs de corail. Ils restent un moment à la regarder évoluer. Ils nagent sous l'eau pour mieux la voir. La peur a reflué. La raie a sauté à nouveau hors de l'eau comme un dauphin. Et lui, en réponse, se tourne sur le dos, fait la planche. Comme elle, il offre son ventre à l'air, à la lumière. Puis elle s'éloigne et lui retourne sur la plage. Quelque chose en lui a cédé. Il n'est pas entre deux mondes. Il est bien dans ce monde, autrement.
Ce jour-là, elle décide de rendre visite à M. Ito dans son atelier. Arrivé devant la porte, il l'appelle. Il ne s'imagine pas tapant à cette porte. La voix, c'est moins brutale. M. Ito est Louis Fine. Il arrive aussitôt, pieds nus et souriant, vêtu d'un large pantalon gris. Et d'une chemise grise aussi aux manches larges et relevées. Ce qui frappe tout de suite Simon, c'est la grande baie à l'opposé de la porte. Elle est ouverte largement sur un autre jardin. On ne peut pas l'imaginer du dehors. Monsieur Ito hoche la tête devant son étonnement. Il lui fait signe de s'approcher, le précède. Il passe de l'autre côté. Il y a d'abord un et sur des claies de bambou des pièces qui sèchent. Pas une semblable à une autre. Puis un sentier étroit bordé de plantes délicates, aux feuilles teintées légèrement de rouge. Tout au fond, une forêt vierge. Monsieur Ito s'est engagé sur le sentier, et Simon le suit. Il découvre alors plus loin un espace vide, presque circulaire, comme une clairière devant un pavillon. Au sol et quelques plantes, à nouveau, des bulbes gris dont s'élancent des tiges très fines, portant de petites feuilles arrondies, en nervures, en rayons. Ces plantes ont l'air à la fois très fortes avec leurs bulbes rustiques et très fragiles avec ces petites feuilles en ombrelle d'un vert tendre. Elles doivent demander des soins précautionneux. Il observe aussi des galets sur lesquels d'étranges étoiles sont posées. Le vieil homme en prend une et la met dans la paume de Simon. C'est un coquillage. Simon le contemple longuement. Monsieur Ito dit « biche » et désigne une direction de la main plus loin. « Another Island ». Magnifiques petites étoiles blanches qui viennent d'une autre île. Apportées par qui ? Simon repose le coquillage étoile avec précaution sur son galet. Ito Akiko, lui, a bien dit que son mari travaillait uniquement pour des amis. C'est peut-être une façon de le remercier. D'une île à l'autre, un troc de beauté. Il découvre une lanterne sur le côté, posée sur un trépied en bois. Est-ce ici que M. Ito se rend le soir ? La visite s'arrête là. Et Simon n'ose pas indiquer la porte en bois du pavillon. Pourtant, il aimerait savoir, comme un enfant curieux, ce qui se cache derrière. Et Ito, Deisuke, retourne vers l'atelier. Il tend un paquet de cigarettes à Simon, qui en prend une. Il n'est pas fumeur, mais c'est une façon de s'installer avec son hôte. Le vieil homme lui désigne un siège bas en bambou. Lui-même ne s'assoit pas. Il retourne à la terre qu'il avait commencé à travailler, pose sa cigarette près de lui. Son crâne est doucement éclairé par la lumière du jour. Ses cheveux blancs accentuent la douceur. Ses gestes sont fermes et réguliers. Il parle et bien sûr Simon ne comprend rien, mais cela n'a pas d'importance. Il comprend que M. Ito explique ce qu'il fait et peut-être lui raconte-t-il le conte de la raie manta et de ses sauts hors de l'eau. Il peut imaginer ce qu'il veut. Cette liberté le ravit. Il écoute cette voix aussi ferme et régulière dans ce rythme que le geste des mains. Il a appris aussi cette façon de le recevoir. La différence des langues, comprendre ou ne pas comprendre, n'a plus aucune importance. Ce qui importe, c'est que Simon ait eu envie de lui rendre visite et que Ito Deisuke ait eu envie de le recevoir. C'est tout. Quand le vieil homme se tait, la voix de Simon s'élève aussi dans l'atelier. Il le remercie de l'accueillir aussi simplement, et puis d'autres mots viennent qu'il n'attendait pas. Il n'a pas peur de parler. La langue inconnue lui fait un abri. Il raconte qu'il a cassé un bol dans sa maison en France, un bol auquel il tenait. Son boss était son ami Mathieu qui l'avait rapporté triomphalement d'une brocante en racontant toute une histoire sans doute inventée sur sa provenance. Ils avaient 11-12 ans peut-être. Un simple bol de faïence bleue qui devenait un objet précieux par la voix de Mathieu. C'était son cadeau à la mère de Simon pour son anniversaire. Mathieu était devenu le frère qu'il n'avait jamais eu. Il n'était jamais pressé de rentrer chez lui. Simon savait peu de choses de lui. Mathieu vivait dans un quartier éloigné de la ville, à la réputation trouble. Il avait des frères parfois brutaux. Il lui arrivait d'avoir des bleus sur les bras. « On joue ?» disait-il. Simon était un peu effrayé par le monde de Mathieu et l'habitude a été prise de le voir s'installer de plus en plus longtemps chez lui. Entre sa mère et lui, Mathieu était heureux. Sa mère l'avait écouté et raconté l'épopée du bol, comme tout le monde l'écoutait. Avec l'intérêt qu'il savait déjà susciter. Les années étaient passées. Simon avait oublié le bol. Il l'avait retrouvé quand sa mère était morte et qu'il avait rangé ses affaires. Elle l'avait soigneusement conservé. Sans réfléchir, il avait fait son bol du matin, pendant des années. Et puis voilà, il l'avait cassé. La voix de Simon le lâche, la tête de Monsieur Ito se redresse, il le regarde. Bien sûr, lui non plus ne comprend rien, mais il entend. Il se lève, vient le chercher, l'emmène près de lui sans soucier de son étonnement. Il lui fait toucher la terre. Sa main appuie doucement sur celle de Simon. Quand Simon écarte sa main, il voit que ses doigts ont marqué la terre de leur empreinte.
Simon prend à nouveau un thé, cela seul avec Akiko. Elle l'autorise à quitter le cérémonieux Madame Ito et il apprécie de prononcer son prénom. Elle lui apprend qu'il signifie « fille de l'automne ». De ses voyages, elle a gardé un esprit curieux et une capacité d'émerveillement qui le réjouit. Elle lui confie que son mari a eu goût de sa visite. Il dit que vous avez bien parlé ensemble, elle. Simon, lui aussi, a aimé s'entretenir à leur façon avec Deisuke. Il parle de sa voix, du rythme de sa voix, des silences aussi. Akiko ose alors une question. Vous êtes musicien ? Simon sourit. Non, j'aime écouter de la musique, mais je ne suis pas musicien. Poète, alors, non ? Cette fois, elle rit franchement. Non, pas poète non plus. J'aimerais bien, mais c'est hors de ma portée, je crois. Voyant qu'elle n'ose pas aller plus loin, je suis psychanalyste. Oh, fait Akiko. Et elle se tait. Il a peur soudain que cela ne gâche l'aisance de leur rapport naissant. Les gens sont si souvent en recul une fois qu'ils savent. Ou bien ils manifestent un intérêt très intéressé et c'est à fuir aussi bien. Mais c'est mal connaître Akiko. Elle lui confie, en allumant une cigarette, qu'elle a beaucoup apprécié de suivre quelques séminaires de Lacan quand elle était jeune, mais qu'elle pense ne pas y avoir compris grand-chose. Décidément, elle est étonnante. Elle n'a jamais osé faire le voyage analytique, confie-t-elle. Elle ajoute parfois « je le regrette ». Puis elle sourit et lance « c'est le bon jour pour découvrir ma collection, non ?» Elle a raison. Passer de l'évocation de l'analyse à la découverte des tissus anciens, ça me va, se dit-il. Le silence les a rejoints. Le silence permet de marcher dans sa tête sans crainte. Le verbe « regretter » prononcé par Akiko rythme la pensée de Simon pendant qu'il la suit. Lui aussi a des regrets, malgré l'analyse et les années à réfléchir. Partager la mélancolie des regrets avec quelqu'un sans les raconter.
partager simplement l'atmosphère que créent les mots « je regrette », la juste distance entre les pas d'Akiko et les siens, le dos de la femme devant lui. Il revoit le dos de Lucie F. à l'aéroport, le dos de Lucie F. quand elle a quitté son cabinet pour la dernière fois. Il ne se rappelle pas. Il n'avait pas compris que c'était la dernière fois. Il croit juste se souvenir d'un pas léger qui dégringolait l'escalier à toute allure, ou l'imagine-t-il? Il avait refusé de voir Mathieu mort. Il sait que Louise lui en avait voulu. Ito Akiko ouvre avec précaution la porte qui coulisse sans bruit. Elle le fait pénétrer avant elle, le buste légèrement incliné, cérémonieuse soudain. Le voilà dans son royaume. Elle le laisse s'accorder à l'atmosphère de la pièce. Ici, tout repose. Il ressent plus qu'il ne voit un ordre et une harmonie. Il remarque seulement alors qu'Akiko elle-même est vêtue d'un pantalon noir à l'aspect soyeux et d'une veste qui rappelle la forme du kimono par la largeur des manches, mais dont la coupe très élégante est sobre et contemporaine. Noir aussi, avec de très fines rayures turquoises. Selon ses mouvements et la lumière, le tissu offre des reflets inattendus. Simon la regarde aller vers l'armoire. Elle avait dû préméditer la visite. Elle s'efface devant sa collection. Ne reste que les reflets de son vêtement pour rappeler sa présence. Ici, elle est discrète, la vigilante gardienne de tout ce qui enveloppe des corps disparus depuis longtemps. Elle sort un kimono dont il distingue d'abord mal les broderies. Il s'approche. Le tissu a une odeur légèrement safranée. Vous pouvez le toucher, Simon. C'est une pièce qui vient de loin dans le temps, de tout près dans l'espace. La voix d'Akiko est toujours aussi grave et un peu rauque. Cette voix, si peu japonaise, étonne encore Simon. Il approche la main du kimono et caresse l'étoffe. Combien d'années entre le moment où un corps vivant habitait le tissu et maintenant? C'est un délicat vêtement féminin. Akiko le laisse contempler. Il apprécie le silence. Simon songe, les mains adoucies par la caresse de l'étoffe. Il part des corps de femme qu'il a embrassés, étreints, de ce vêtement dont plus personne ne s'enveloppe. Pour certaines, c'est impossible à imaginer. Celles qui acceptent d'entrer dans son rêve sont celles qu'il a désirées le plus passionnément. Pourquoi n'a-t-il personne aujourd'hui à qui offrir un tel vêtement? Les tissus et les fantômes. Simon revoit sa mère ouvrant une armoire, sortant un costume de son père mort. « Pour l'aérer, disait-elle. » Il ne comprenait pas. Il avait 12 ou 13 ans. Il se disait « Elle est folle. » Il ne comprenait rien. Quand il avait rangé ses affaires après sa mort à elle, il avait retrouvé le costume, mais on aurait dit des cendres qui s'envolaient. Les mythes l'avaient détruit. Il en aurait pleuré. Comment Akiko conservait-elle les tissus? De quels soins les entoure-t-elle? Elle replie le kimono lentement. Puis, c'est le tour de quelques fragments de tissu aux couleurs très vives. Akiko sourit. Les couleurs sont si joyeuses, des rouges, des jaunes, des bleus et des motifs délicats. Elle lui montre les grues, symbole de la longévité, les fleurs toutes simples de prunier aux 5 pétales, les chrysanthèmes. Ce sont des tissus Bingata, une spécialité d'Okinawa. À l'aide de pochoirs, on met en réserve le tissu, puis on le peint avec des pinceaux très fins et des pigments minéraux des îles Okinawa. Akiko ajoute que c'est une tradition très ancienne qui date d'avant l'annexion du royaume de Ryukyu par le Japon. Avant, toutes les petites îles et la nôtre aussi formaient un royaume, un vrai royaume. Histoire d'amour et d'amitié, de désir et de rencontre, laissez-vous emporter. Bonne lecture.
La musique est extraite de L'île joyeuse et de Estampes de Claude Debussy. La semaine prochaine, nous continuerons notre lecture. Ce texte a été lu par Armel et Jean. À la technique, Jean.
Chers auditeurs, Si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission.